Afrique propose Votre santé, votre avenir, une émission sur les grandes questions de santé. Présentation, Khalid Gueye. Deuxième partie.
Alain Boutoukou, vous avez écouté Moustapha Kemal. Alors, est-ce que ça vous inspire une question au docteur Bashi?
En fait, je voulais revenir d'abord sur les origines. En fait, j'ai lu la revue par l'entremise de la revue Jeune Afrique, en version française. Là, j'ai vu clairement que l'étude était très fiable et les dates, les précisions sur la suite étaient très, très fiables. Mais je voulais rappeler quelque chose à tous les auditeurs de la Voix de l'Amérique, que nous sommes une réserve, un réservoir, comme l'a dit le docteur, de beaucoup d'animaux. Et entre autres ces animaux-là, ce sont les virus. Et nous avons plus de 70% de forêts du bassin du Congo. Donc, nous devons nous préparer à comprendre qu'il y aurait beaucoup de choses qui beaucoup d'animaux qui vivent dans ce pays. Et il y a même des spécialistes qui disent qu'il y a des animaux qui ne sont pas encore connus au monde et qui vivent dans les forêts qui sont ici chez nous. Et nous savons que dans nos forêts, il n'y a pas une expertise claire dans l'analyse, dans la compréhension de tous les êtres qui sont dans. Donc, nous devons comprendre ça et prendre ça du sens positif pour dire qu'est-ce que nous voulons demain parce que nous faisons face à ces réalités, avec les changements climatiques, avec toutes les réalités que nous faisons face au monde aujourd'hui. Quelle est notre politique pour pouvoir compenser à ces réalités qui nous font face et ces maladies qui ne pardonnent pas et qui sont très virulents et qui tuent, du coup, donc nous devons nous préparer au lieu de nier les évidences. Et je suis très sûr que cette étude a été signalée, elle est digne d'être prise en considération au lieu de la nier, de la rejeter en bloc. Justement, parce que c'est que j'ai écouté des reportages, les reportages de Kivu, vous sentez qu'il y a trop de sentiments dans notre... Évitons les sentiments, et ça tue trop les nations, les sentiments. La science, elle doit être basée dans la réflexion, dans l'analyse. Et j'ai dit clairement que notre forêt regorge énormément d'espèces qui ne sont pas encore même connues au niveau scientifique. Et ça, c'est une évidence que nous devons prendre, et ça, c'est une évidence, et ça, nous devons prendre ça au sérieux et pouvoir mener des études. Et moi, ça me choque un peu quand on dit que le Congo maîtrise cette maladie d'Ebola. Non, il y a plus de 25 ans que Ebola est en train de sévir au pays, mais on n'a pas une analyse pour déterminer qu'il y a Ebola, oui ou non. Donc, on se limite, le laboratoire qu'on a à Kinshasa, c'est pour se limiter dans les analyses. Il faut aller à Libreville ou il faut aller en Afrique du Sud pour pouvoir confirmer. Donc, c'est un problème. Donc, c'est comme si nous ne prenons pas au sérieux notre identité, les réalités qui sont nôtres. Donc, ça, c'est ce que je voulais partager avec tout le monde. Mais aussi, ce que je vais dire au docteur, c'est que moi, je voudrais vraiment que tous les docteurs et tous ceux qui sont basés dans, en fait, ceux qui ont la responsabilité dans la santé humaine, de pouvoir booster un peu, pousser un peu le politique pour qu'ils comprennent que le système sanitaire n'existe pas en réalité en Afrique. Parce qu'en fait, le Ebola démontre ça clairement, que nous n'existons pas. Tous les cas d'Ebola qui sont aux États-Unis, en France ou ailleurs, guérissent. Pourquoi ils ne guérissent pas en Afrique? Donc, voyez un peu le problème.
Ouais. D'accord, il y a beaucoup de sujets autour de cette question. Merci. Merci beaucoup. Alain Boutoukou, depuis Kinshasa, gardez l'antenne. Je passe rapidement la parole à votre voisine Bikaï. Vous êtes là?
Oui. J'ai des questions à poser, j'en ai trois.
Oui, allez-y.
Mais rapidement. Je voulais souligner quand même quelque chose. C'est par rapport au laboratoire. Celui qui est intervenu avant moi a dit que ça fait plus de 25 ans que l'Ebola est là. Mais moi, je souligne que ça fait plus de 25 ans, certes, mais c'est de manière récurrente. Ebola est apparu en RDC, je pense, une affaire de plus de 6 mois. de plus de 6 fois, en fait, donc 2012-2008. Donc, il apparaît de manière assez récurrente et cette récurrence devrait pousser, en fait, les autorités compétentes à monter des laboratoires de recherche, en fait, pour trouver des remèdes. Parce que une maladie qui est aussi récurrente dans un pays, on doit pouvoir trouver des souches, trouver des remèdes médicamenteux pour les immunités et tout ça pour arriver à pallier au problème. Donc, je pense qu'on doit prendre ça au sérieux vu que Ebola apparaît plusieurs fois en fait dans le pays. Oui. Donc c'est en fait ce que je voulais dire.
Oui.
Et pour ma question, mes 3 questions, ma première question elle concerne ce qui se passe en République tchèque en fait. Il y a des gens qui menacent en fait les autorités en disant que ils veulent en fait répandre Ebola dans le pays et ils demandent une rançon par rapport à ça. Mmh. J'aimerais savoir si c'est vraiment possible en fait que des gens puissent répandre Ebola, le prendre d'un pays et commencer à le distribuer comme ça à la population. Est-ce que c'est possible? La deuxième question, c'est celle de savoir en ce qui concerne la transmission de la maladie. Le docteur a dit qu'elle se transmet de l'animal à l'homme et après c'est de l'homme à l'homme. Est-ce qu'un insecte comme la mouche peut arriver à transmettre Ebola? Par exemple, il peut être en contact comme on se transmet la typhoïde et tout. Est-ce qu'une mouche peut arriver à transférer Ebola d'un homme à un autre homme? Est-ce que c'est possible? Voilà ma deuxième question. La troisième, c'est celle de savoir si une personne arrivait à guérir d'Ebola, est-ce qu'elle est immunisée à vie ou est elle est capable de retomber malade du virus, en fait? Est-ce que c'est comme une angine qu'on peut attraper, je ne sais pas, une toux qu'on peut attraper plusieurs fois dans sa vie, ou lorsqu'on a eu, c'est fini, c'est comme la varicelle, on ne l'attrape plus? Donc voilà mes 3 questions.
Merci, Vikaï. Gardez la ligne pour les réponses. Docteur, la première question sur les événements qui se passent en République tchèque, c'est à partir d'une possibilité de distribuer Ebola.
Bon, je pourrais dire que oui et non. Oui, parce que oui, le bioterrorisme est dit. Vous vous rappellerez bien le terrorisme qui s'était fait à un moment aux États-Unis avec le virus à charbon, avec des enveloppes. Oui, ça arrive. Le bioterrorisme, ça, on ne le prend jamais à la légère. Et ce n'est pas pour rien que la communauté internationale est impliquée, en fait, dans cette épidémie d'Ebola qui se transmet très facilement du moment que la maladie s'est déclarée. Donc, il est très important de bien se confier la maladie parce que, oui, le risque existe. Avec un simple toucher de sujet contaminé, oui, ça peut se passer.
D'accord. La deuxième question sur la transmission par la mouche, par exemple, d'Ebola.
Non, la transmission par la mouche, non, je dirais non, parce que ce n'est pas le même principe. Le virus, en fait, Ebola, il est fragile s'il reste longtemps dehors. Comparativement aux autres maladies, les maladies à main sale, comme on les dit souvent, c'est souvent d'origine bactérienne, ce sont les bactéries. Et les bactéries parviennent à vivre un peu plus longtemps en dehors d'un organisme vivant. Donc la mouche dépose d'abord le germe sur la nourriture et après vous mangez la nourriture et là vous contaminez. Donc il fallait que d'abord la bactérie se multiplie beaucoup plus vite. Alors que les virus ne peuvent pas vivre longtemps, il s'est multiplié en dehors d'un organisme.
Et la mouche n'a pas d'organisme.
La mouche n'est pas un réservoir non plus.
Donc, OK. D'accord. Est-ce qu'une fois qu'on est guéri d'Ebola, on est immunisé à vie?
Oui, ça, c'est la question colle, comme on le dit souvent. Mmh. C'est un peu difficile à dire oui, parce que, comme on le dit, il y a plusieurs sous-types. Quand il y en a beaucoup comme ça, si la production d'anticorps, c'est-à-dire des militaires qui doivent protéger l'organisme et réagir rapidement une fois que le virus entre, ne couvre pas tous les sous-types, vous pouvez tomber malade du sous-type 1, mais quand le sous-type 2 rentre, vous pouvez retomber encore malade parce que ce n'est plus le même sous-type. Mais pour Ebola, pour le moment, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Mais on ne peut plus attraper la maladie ou développer la maladie si c'est le même sous-type qui rentre chez vous.
D'accord. Nous allons donc avancer et voici Béraud donc sur son enquête à partir de la ville de Kinshasa.
En 1920, la politique sanitaire coloniale était au rendez-vous. Difficile pour la population quinoise de contracter cette maladie. Robert Chikuni est acteur social de la lutte contre le sida en RDC.
Personnellement, je sais qu'en RDC, il y a toujours eu une infection dans sa partie orientale qui est considérée incurable. Ça s'est traité sur base des plantes médicinales, surtout vers Bukavu. Mais vers les années 20. Je ne suis pas d'accord parce que pendant ces temps-là, il y avait une bonne politique sanitaire coloniale de Belges. On aurait découvert ça. Ça ne pouvait pas attendre seulement vers les années 80 pour découvrir cela. Et ça peut être des infections du même type, des mêmes familles, mais ce n'est pas vraiment ça, les mêmes noms.
L'origine de cette maladie demeure inconnue pour certains Kinois, Milondou et habitants à Kinshasa.
Quand on construisait les ponts maréchaux par des Japonais, il y avait certains Congolais, surtout ceux qui habitaient Matadi, qui disaient que les sida pourraient venir du Japon, étant donné que c'était les constructeurs de ces ponts-là qui étaient des Japonais, qui sortaient avec des femmes congolaises et qui, par la suite, ces femmes ont été atteintes du sida. Donc, c'est difficile de dire quelle est l'origine de cette maladie.
Kinshasa, Béro Matanda, pour votre santé, votre avenir, la Voix de l'Amérique.
L'important, docteur, c'est trouver les solutions, n'est-ce pas?
Oui, en fait, c'est le plus important. Et comme je l'ai dit, en fait, il faut éviter de faire l'amalgame entre la maladie et l'origine du virus. En fait, la maladie, beaucoup de gens le diront, il y a même Moussa Firi dans son interview, un auditeur qui a parlé de que le premier cas a été découvert aux États-Unis, donc la maladie, le virus serait de là-bas. Non, en fait, le virus peut être d'ailleurs, comme l'a dit un auditeur dans le reportage de Mutanga, que peut-être en 1920, s'il y avait eu des cas, le colon aurait peut-être décrit la maladie. Donc, la maladie, on peut voir les signes des gens qui sont malades, qui meurent de fièvre hémorragique inexpliquée, mais la cause, identifier la cause, oui, c'est à ce moment-là qu'on a identifié la cause aux États-Unis. Et la cause, c'était un virus. Maintenant, après, le travail du chercheur, c'est de trouver ce virus-là, comment il évolue, comment il se déplace sur le globe, pour pouvoir savoir comment le prévenir. C'est vrai, les gens pensent au Japon et en Asie en particulier, parce qu'on a eu beaucoup d'épidémies venant de là-bas, la grippe aviaire, la grippe asiatique. Il y a aussi souvent beaucoup d'épidémies virales qui proviennent du milieu asiatique. C'est pour ça que les chercheurs ne manqueront pas toujours de prospecter dans ce sens-là, comme on prospecte aussi dans la grande forêt équatoriale. C'est-à-dire que ça ne dérange pas en réalité les mœurs ou les populations, mais c'est juste qu'on essaie de retracer le déplacement des maladies et de leurs causes pour pouvoir comprendre comment est-ce que le monde microbiologique évolue aussi avec l'espèce humaine. C'est essentiellement cela, l'exercice.
Ok, joli journal. Rapide réaction à ce reportage depuis Kisangani.
Ce que je peux retenir, c'est que les gens ont toujours des doutes, se posent des questions par rapport aux origines de ces deux maladies-là. Mais moi, je crois que il faut vraiment informer la population. Les gens tous n'ont pas étudié comme nous, tous n'ont pas la chance d'être en contact avec l'information. Il y a beaucoup de spéculations autour du sida, autour de l'Ebola, mais je crois que l'information, c'est une arme pour combattre toutes ces spéculations. Voilà. Parce qu'aujourd'hui encore, malgré le fait que le Congo a été confronté plusieurs fois, il y a toujours des gens qui ne savent pas comment se prévenir de cette maladie-là. C'est encore une bataille à faire, une guerre à livrer, mais bon, je crois qu'avec l'information, ça peut aller.
Et docteur et chers amis invités, nous allons passer à un autre sujet. Nous allons écouter Fatima Kalala dans sa rubrique qui nous parle du chocolat et de la mémoire.
Merci Khalil. Bien, chers auditeurs, dans notre rubrique aujourd'hui, le chocolat pour préserver la mémoire avec l'âge. Une étude tend à démontrer que le flavanol, un antioxydant présent dans le cacao, permet d'inverser le processus de perte de mémoire lié à l'âge. D'après les conclusions de chercheurs de l'Université de Columbia à New York, c'est le flavanol qui est l'ingrédient miracle. il est présent en très faible quantité dans le cacao, limiterait les déclins cognitifs et pourrait même inverser le processus de perte de mémoire. Donc, des expériences ont été menées sur 37 volontaires âgés de 50 à 69 ans au cours d'un test qui a duré 3 mois. Ces volontaires ont été divisés en deux groupes. Le premier devait boire quotidiennement une très forte dose de 900 g de flavanol et le second une très faible dose, seulement 10 mg. La forte dose correspond à 300 g de chocolat noir par jour, soit environ 7 barres chocolatées. D'après les résultats publiés dans la revue Nature Neurosciences et obtenus par imagerie cérébrale, les groupes qui avaient ingéré la plus forte dose ont bénéficié d'un meilleur afflux sanguin dans la partie du cerveau nommée gyrus denté. Ces fonctions se sont nettement améliorées. Or, cette zone, dont les performances diminuent naturellement avec l'âge, joue un rôle dans la mémorisation. Les performances du groupe qui a consommé le plus de flavanol étaient en moyenne 25% meilleures que celles de l'autre groupe. Ces tests ont porté sur la reconnaissance de formes impliquant les mêmes types de performances comme par exemple se souvenir du lieu où une voiture est garée ou se rappeler le visage de quelqu'un rencontré récemment. Mieux, l'expérience permettrait même de retrouver des capacités cognitives. Au bout de 3 mois, un participant qui avait la mémoire d'un sexagénaire au début de l'étude retrouvait celle typique d'une personne âgée de 30 à 40 ans, explique Scott Small, neurologue et principal auteur de l'étude dans le New York Times. Voilà, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui et à la semaine prochaine.
Alors, docteur Bashi, et chers invités, chers participants, alors vous allez vous mettre au régime chocolat à partir de maintenant?
Non, pas forcément. Et comme dirait, pour développer le muscle, il faut bien manger, ce n'est pas suffisant. Il y a de l'exercice à faire.
Ah et oui, absolument.
Le cerveau réagit exactement comme le muscle, plus vous l'entraînez et mieux vous gardez la mémoire, je pense.
Mm-hmm. Julie, est-ce que tu vas passer au chocolat toi aussi?
Je pense que je prends avec modération. J'applique les principes quand on prend l'alcool. Et qu'on prenne aussi le chocolat avec modération, je crois que ça sera mauvais pour la santé. Mmh. Mais en ce qui me concerne, je n'oublie jamais, j'ai vraiment une mémoire d'éléphant.
Mmh. Très bien, j'espère que c'est la même chose pour nos amis. Oui, c'est vrai.
Je me rappelle facilement des choses.
Ah ben c'est bien, c'est magnifique ça. Nous allons écouter le reportage qui nous vient de Kindu, n'est-ce pas, dans le Maniema, où notre reporter Modeste Chabani a enquêté sur, justement, les origines congolaises du sida et de Ebola.
Selon la revue américaine Science, le VIH-Sida et Ebola tireraient scientifiquement les origines de la République démocratique du Congo. L'origine d'Ebola ne fait plus l'objet de doutes. Quant au VIH-Sida, ce virus aurait apparu vers les années 1920 à Kinshasa, selon les sources ci-citées. Que pense la population et les corps médico-scientifiques de Kindu à ce sujet? Docteur Théo Katako, coordonnateur provincial du PNLS.
Cette question fait l'objet de beaucoup de curiosités. Ça fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre. Ce sont des recherches qui sont encore en cours. Dès qu'on sera informé, surtout par notre hiérarchie officiellement, on va vous dire les vraies origines du sida. Mais pour le moment, je maintiens en attendant que les résultats des scientifiques nous donnent des bons résultats qu'on peut publier.
Cependant, il confirme que le premier cas en RDC est apparu exactement vers les années 1974 à Kinshasa. D'autres sources scientifiques locales ayant requis l'anonymat ont affirmé que le VIH-Sida proviendrait de la province orientale d'une personne blessée par un singe en expérimentation dans un des laboratoires du
lieu. Kassongo dans la province du Maniema, Modeste Chabani Bilsweni Kitaza Monapachi, votre santé, votre avenir pour la Voile d'Amérique.
Et sans transition, nous allons au Katanga. Écoutez, Régine Kassongo.
La réapparition de l'épidémie d'Ebola a poussé le gouvernement congolais à mettre en place des stratégies en vue de lutter contre ce virus dans les postes frontaliers de la RDC. Chaque passager doit se présenter à ce service pour y être testé. D'après le docteur John Chawan, officier de police sanitaire aux frontières à l'aéroport international de la Luano à Lubumbashi, depuis le début de l'opération, aucun passager n'a présenté des symptômes de la maladie à virus d'Ebola au moment de sa sortie.
Le nom même Ebola serait venu du Congo. Le virus du sida, il semblerait que le premier sérum humain, on aurait retrouver les anticorps et encore une fois d'un Congolais. Effectivement, coïncidence, ce n'est que la nature qui propose cela. Nous attendions les 42 jours qu'on peut déclarer la fin de l'épidémie d'Ebola. Il s'est déclaré à Boyende.
Pour ceux qui pensent que le virus d'Ebola et le VIH-Sida auraient des origines congolaises, Dr John Chawan réagit en soulignant que c'est un plus pour les chercheurs scientifiques.
C'est aussi quelque part une contribution à la science, bientôt peut-être les vaccins.
Pour sa part, Didier Tchoto, pharmacien et chercheur à l'université de Lubumbashi, les chercheurs congolais doivent autant effectuer des recherches à présenter à la communauté internationale.
Il appartient aux chercheurs congolais de continuer les recherches pour apporter soit de la lumière sur les recherches qui ont été réalisées. Cela va permettre à la communauté internationale de confirmer ce que les chercheurs américains ont relevé. Mais quant à Ebola, c'est un virus qui a été découvert ici en 1976 et le cas de Boeing est la 7e fois que le virus apparaît ici.
Lubumbashi, Régine Kasongo, votre santé, votre avenir, la voix de l'Amérique.
On l'a vu il y a un instant, Dr Bashi, comme l'a dit quelqu'un d'ailleurs dans ce reportage de Régine, c'est un plus pour la recherche scientifique.
Positif, ne le rejette pas, ne l'abandonne pas, ne le fuis pas. Si ta sœur est séro, positive, ne la rejette pas, ne l'abandonne pas, ne la fuis pas. Si ton partenaire ou ta partenaire a le VIH, ne l'accuse pas, ne le condamne pas, ne lui en veux pas. Être séropositif n'est pas une fatalité. Être séropositif n'est pas quelque chose de dramatique. On peut même manger dans la même assiette avec un séropositif. On peut même dormir sur le même lit avec un séropositif. On peut même se laver dans un même vaisseau avec un séropositif. Sans danger, alors offrons-leur notre amour. Je dis bien sans danger, alors offrons-leur notre amour. Why? Ce sont les pleurs d'une dame enceinte et séropositive. Aujourd'hui rejetée, chassée par monsieur son mari. Ces derniers croient être ainsi en sécurité, alors que c'est faux. Tant que tu n'as pas fait ton test de dépistage, c'est pas la peine d'accuser ta femme inutilement, car nul ne sait entre vous deux qui a contaminé qui. Et s'il arrivait par miracle que tu aies déclaré séro-négatif, raison de plus pour aimer ta femme séropositive. Car hier devant le maire, tu disais être prêt pour le meilleur et pour le pire. Why? Avec la misère, la pauvreté qui sévit dans nos sociétés, les plus exposés au sida sont nos mères, nos femmes, nos filles, nos sœurs, victimes souvent des viols en période de guerre et même de paix. Mais aussi de nos jours, quand vont se marier, les filles veulent paraître, elles veulent être devant, peu importe le prix, même risque de leur vie. Résultat, la gente féminine est la plus touchée par le VIH. Chez nous en Afrique, quand tu parles chien, il faut aussi parler à l'os. Quant à nous les hommes, en tout cas, 75% des hommes, nous sommes des véritables donjons, des infidèles chroniques dans nos cités, avec nos histoires de deuxième bio, ou des gnani, ou des fréchinis. Au lieu d'accuser Y ou X, sache d'abord ta sérologie.
Car avant de rencontrer madame, qu'est-ce qui nous dit que toi tu étais sainte? Je t'apprends que de nos jours, une femme enceinte qui a le VIH dans son sang peut accoucher d'un enfant séronégatif bien portant. Je ne mens pas, petit à petit, la science évolue. Alors n'abandonne pas ta femme, parce qu'elle est séropositive. N'abandonne pas ton mari, parce qu'il est séropositif. N'abandonne pas ton semblable, parce qu'il a le VIH. Ne l'abandonne pas.
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 Je dis au revoir à nos amis participants à cette émission. Au revoir Alain, depuis Kinshasa.
Au revoir.
Bonne soirée.
Au revoir. À vous autant.
Merci. J'ai dit au revoir donc aussi à Toulibou depuis Kisangani. Au revoir Toulibou.
Oui, au revoir. Merci.
Et merci. Je dis au revoir.
Au revoir Annie. Merci, oui. Encore. Merci encore de m'avoir appelé à cette émission.
Mais le plaisir est pour
et
nous.
Et je vous encourage à aller continuer dans ce sens. C'est très bien informer la population.
Merci Jolie. Merci. Bikayi, vous êtes là?
Oui.
Voilà, vous, c'est la première fois que vous participez à cette émission, n'est-ce pas?
Oui, c'est la première fois.
Voilà, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois.
Oh, j'espère que non, c'est très intéressant, bien que je n'ai pas eu beaucoup de temps de parole et que je suis arrivée en retard, mais sinon, c'est très intéressant, le thème, il est bien, il est actuel, et ça fait qu'on est vraiment dans le vif du sujet, et c'est très intéressant.
Merci, merci donc. Au revoir et bonne soirée à Kinshasa, et à très bientôt.
Merci. Ok, à bientôt, bye.
Merci. Docteur Bachi, quel est votre dernier mot?
Le dernier mot, en fait, je pourrais essayer de ramasser tout ce qui a été présenté en disant que vraiment par rapport à l'origine de la maladie, il faut vraiment qu'on retienne, qu'on fasse la part des choses entre la maladie qui présente le signe et la cause qui est le virus, et qu'il est important dans le domaine de la recherche qu'on puisse comprendre d'où vient le virus et comment il évolue, pour permettre à ce qu'on puisse faire une bonne prévention et une bonne éducation de la population.
Merci docteur, au revoir. Je rappelle que nous vous avons joint en Côte d'Ivoire, où vous êtes actuellement.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup, Khalil.
Alors, votre santé, votre avenir, c'est terminé. Technique El Taïb Suber. Réalisation Fatouma Kalala. Micro Khalil Gueye, au revoir et à la semaine prochaine.
Se réveille. Aujourd'hui, il est chez moi. Oh mon Dieu, je ferme la porte à double tour. Il ne passera pas. Oh non, non, non. Je prends mes précautions pour stopper sa propagation. De serrer les mains, d'être en contact avec les animaux. On est tous prévenus. Faut plus manipuler les cadavres. Faut non plus manger la viande de pousse. Toujours se laver les mains avec de l'eau et du savon. Abonne-toi.